Alors Tony, bonjour. Tony Rodriguez, donc tu es né le 4 novembre 1979, aujourd'hui tu as 38 ans, et donc tu vas nous parler de ton enfance au Blossière, tu es champion donc de judo. Première question d'abord, on sait que les sportifs ont des carrières assez courtes, qu'en est-il aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que tu fais?
Bah écoute, bonjour déjà. Moi je suis maintenant responsable du club Le Sorléans Judo. Donc, qui est rue Fernand Pelloutier, à côté de, bah, pas très loin des Blossières, hein, c'est dans l'ancien quartier des Murlins. Donc, je suis responsable du haut niveau, donc ma tâche, c'est d'accompagner au mieux possible et d'entraîner toute la structure haut niveau. Bah, alors, on n'est pas souvent sur Orléans, on est basé à Paris, à l'INSEP. J'entraîne, j'accompagne et j'emmène en compétition et bah, des filles comme Hélène Rossovaux, Maëlle DiCinzio, et bien d'autres qui sont au club depuis quelques années maintenant.
Alors, tu es originaire donc du quartier des Blossières. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, ton enfance dans ce quartier?
Oh bah, très bien. Très bien. Donc, entre l'école, où c'était assez sympa, parce qu'on se retrouve quand même tous ensemble. Alors, on est dans le même quartier, on vit ensemble. Avec j'avais mon frère, il y avait Mehdi, Kaldoun, il y avait plein d'autres personnes. Et après, on va à l'école ensemble, on est encore dans la même classe, on a tous le même âge, donc on se retrouve à faire pas mal de choses ensemble, donc c'était plutôt agréable, quoi.
Revenons-en au judo. Comment tu as découvert le judo, à quel âge?
À l'âge de 10 ans. Moi, j'habitais pas très loin du dojo et nos parents, à l'époque, alors on était pas bien riches, hein, donc on avait les bons CAF, alors je sais pas si vous vous souvenez de ça, et vu qu'on partait pas beaucoup en vacances, ces bons CAF, on sait pas trop quoi en faire, donc on a dit, bah écoute, tiens, inscris-toi à un sport, et puis on verra comment tu te débrouilles. Puis bah, première année, bah pas trop mal, deuxième, troisième, et puis voilà, maintenant ça fait 20 ans que ça dure, donc, donc c'est bien. Et voilà, c'est un peu par hasard le judo. Hein.
Oui, tu as commencé comme ça par hasard. Pourquoi tu t'es plus orienté vers le judo directement plutôt que vers le foot ou les sports un petit peu communs que tous les garçons font un jour ou l'autre?
Ouais, nous, pareil, mais voilà, on n'est pas comme les autres, nous. Non, non, il nous fallait un sport de combat. Il fallait qu'on se défoule un peu. On était un peu turbulents et il nous fallait un truc qui nous canalise un petit peu. Je sais pas si le foot aurait été la bonne solution. On le saura jamais parce que j'en ai jamais fait. Mais il y avait deux sports que j'aimais beaucoup, ben, donc le judo et le hand. Donc le foot, je sais pas si j'aurais été déjà pas très très bon au foot, donc je pense que je me serais fait chier. Mais il fallait un sport de contact, il fallait qu'on se rentre un peu dedans, qui ait de l'engagement quand même. On était assez turbulent, on l'est un peu moins maintenant, on vieillit, mais il nous fallait ça, il nous fallait une autre dose de sport de contact et de combat et voilà, pour être un peu fatigué le soir, ça arrangeait nos parents aussi.
Alors comment tu faisais pour justement jongler entre l'école et le judo? Est-ce que tu nous parlais tout à l'heure, tu nous disais que tu étais un peu turbulent à l'époque, comme pas mal de jeunes garçons. Comment tu as vécu le parallèle entre le judo et l'école? Est-ce que tu as été accompagné à l'école par exemple?
Bah écoute, moi j'ai arrêté l'école assez rapidement, quoi, pas l'école évidemment, mais le cursus classique de tout le monde, 6e, 4e, 3e, etc. Moi je suis rentré directement, alors on appelait ça l'école technique. Alors c'était au sein du club de judo et moi je faisais les cours là-bas et j'avais 2 heures de cours le matin, 2 heures de cours l'après-midi. Et le reste du temps, c'était que l'entraînement. Donc, à partir de la 4e, je suis rentré dans cette école technique. Donc, après, j'avais des plages horaires uniquement consacrées à l'école et d'autres uniquement consacrées au sport.
D'accord.
Ce qui m'a permis aussi d'avoir un double projet, donc pouvoir m'entraîner et pouvoir aussi avoir un cursus scolaire à côté pour pouvoir voilà, avoir un bagage aussi à côté, pas que faire du sport, quoi.
Donc toi, tu as commencé le judo à 10 ans, donc tu étais encore à l'école primaire, c'était l'école Jean Mermoz. Et comment ça s'est passé justement à cette époque-là? Tu as découvert ça parce que tu avais besoin de te défouler, et après c'est devenu petit à petit quelque chose de plus en plus sérieux. À partir de quel moment tu as découvert, enfin tu savais que tu voulais en faire ton métier?
Bah, mon métier, je l'ai pas tout de suite, hein, mais quand on était à Jean Mermoz, c'est vrai que je te disais tout à l'heure, le hand, j'aimais bien parce qu'on avait un prof, c'était Monsieur Richard qui était à Jean Mermoz, et on faisait des championnats UNSS de hand. Donc moi, cette période-là, j'hésitais encore un peu entre les deux. J'aimais vraiment le hand. Après, je lui ai dit, bon, allez, on va faire une année de hand, je vais faire un peu de judo à côté, allez, on verra bien, quoi. Et au bout d'un an, le judo, c'était pas top, top, top. Mais bon, je m'amusais quand même, j'étais avec mes potes, je m'amusais et tout. Mais après, l'année où j'ai vraiment su que j'allais faire partir là-dedans, c'est quand j'ai rencontré Olivier Dapierre, qui est responsable maintenant du club d'Orléans. Sur la partie avec Olive, on a vite sympathisé, c'est devenu un peu le papa bis, et puis de fil en aiguille, on a eu des résultats en minime, en cadet, en junior, en senior, et puis voilà, donc vraiment en cadet, quand j'ai fait champion de France, Olive, voilà, il m'a dit, faut prendre cette voie-là, t'es bon, t'as des bons résultats, t'es investi, tu Il y a une carte à jouer dans ce domaine, et j'ai bien fait de l'écouter parce qu'aujourd'hui, voilà, les résultats ont été bons et ma carrière aussi. J'ai un travail, j'ai une famille, j'ai tout ça. Donc peut-être que si j'avais fait autre chose que du judo, peut-être que je serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, voilà, avec Olive, c'était en 80, 96, ça, 95, 96, voilà, où je suis champion de France. Et là, c'est un peu le déclic, quoi. Donc j'étais capable de gagner des grands championnats, et donc ça devenait vraiment intéressant à partir de ce moment-là.
On rappelle que dans ton parcours junior, tu étais vice-champion d'Europe en 98, c'est ça? Toi, tu fais partie de la catégorie des mi-moyens, donc des moins de 81 kilos. Tu as été, que je ne dise pas de bêtises, tu as fini cinquième en 2005 aux Mondiaux du Caire. Tu as participé aux Jeux Olympiques également à Pékin. Alors, quel regard tu as sur ton parcours aujourd'hui? Est-ce que tu as été fier de ce que tu as accompli?
Oui. Bon, t'as oublié juste une petite ligne. J'ai quand même fait vice-champion du monde
Oui, en
en
2007.
2007. C'est pas
Oui,
si grave.
tu as fait vice-champion du monde en 2007, effectivement.
C'est loin, c'est loin. Mais oui, je suis. Vous savez, c'est ce que je dis à mes athlètes aujourd'hui. Et maintenant, je suis passé de l'autre côté de la barrière. C'est il faut vivre à fond le moment présent. C'est qu'il faut faire, faut s'entraîner, faut aller à l'école, faut se remplir les biscottos, mais aussi la tête. Mais faut pas regarder ce qu'il y a dans l'assiette du voisin, à droite à gauche, parce que si on regarde l'assiette de Teddy Riner, forcément elle est bien bien pleine avec 10 titres de champion du monde et des médailles d'or olympiques. Faut se contenter de voilà, on a des niveaux tous différents, et peut-être que mon maximum à moi, c'était d'être vice-champion du monde. Voilà, donc j'ai atteint mon max, et voilà. Peut-être que pour d'autres personnes, ce sera d'être uniquement champion de France, mais bon, il faut se donner au quotidien et puis atteindre son maximum. Peut-être que le maximum de Riner, c'est peut-être aujourd'hui 10 fois champion du monde, et peut-être qu'il sera plus jamais champion du monde. On le sait pas. Mais il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il prenne du plaisir, qu'il fasse pas pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. C'est l'acteur principal dans tout ça, c'est eux. Donc c'est l'athlète qui est au cœur du projet. Donc même si il a un bon entraîneur, même si il a les meilleurs parents du monde qui le soutiennent au quotidien et tout, c'est très bien, mais celui qui se retrouve sur le tapis le jour de la compétition, c'est la tête, et ce jour-là, il est tout seul. Même s'il y a le coach à côté, il y a les parents dans les gradins, il est tout seul. Donc c'est vivre son projet à 100%. J'en ai regretté à dire, ah merde, si j'avais su, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Non, faut faire, et puis on fait un bilan en fin de saison, en fin de carrière, et après on verra bien. Mais il faut vivre l'instant au présent à fond. Et puis, voilà, moi, si j'ai un regard sur ma carrière maintenant, oui, il y a deux, trois résultats que j'aurais pu avoir en plus. Pourquoi pas? Mais est-ce que j'ai fait l'effort de les avoir? Je sais pas. Est-ce que j'ai eu la chance? Parce qu'il faut des fois aussi ce petit brin de chance qui vont vous aider aussi. Non, là, ma plus belle médaille, c'est d'être champion du monde. Mais écoute, moi, je suis content parce qu'il y a des gens qui font toute une carrière et ils sont même pas médaillés aux France. Parce qu'ils sont peut-être cinquième, peut-être septième. Ils sont sélectionnés en championnat d'Europe, ils perdent. Ou ils sélectionnent en championnat du monde, ils perdent. Donc, avoir une médaille sur un championnat officiel, c'est déjà pas mal. Alors, c'est sûr, bon, si on se compare à Rimmer, qu'on a 10, c'est.
Moi, je voulais plus me dire, est-ce que le petit Anthony Rodriguez, à 10 ans, quand il a commencé le judo, il s'imaginait atteindre la carrière que tu as eue au final?
Oh, non, je partais pour faire du judo à la base, bon, pas du haut niveau. Après, quand j'ai découvert le haut niveau, c'est forcément on a des rêves, on a des objectifs et à 10 ans tu as certains rêves, à 16 ans tu en as encore d'autres et à 20 ans tu rêves de médaille olympique. Donc oui, c'est sûr que plus on avance dans la carrière et plus bah et en plus quand tu sais que tu es sélectionné à un championnat du monde, c'est intéressant. Bon, la première fois cinquième, la deuxième fois deuxième, et que là d'après, bah, on dit bah, c'est les Jeux Olympiques. Bah, ouais. Quand tu sais qu'un an avant t'es vice champion du monde, bah tu dis merde, si je refais la même journée dans un an à Pékin, voilà, je suis médaille olympique. Donc
Ça
voilà,
reste un regret dans ta carrière, ces JO de 2008 à Pékin?
non, c'est pas un regret parce que pour la vérité, c'est que en 2007 j'étais très fort, j'avais fait deux ans de préparation vraiment vraiment au top et c'est à ce moment-là où je suis devenu vraiment assez costaud. Mais ces deux ans-là, bah, j'ai dépayé en 2008 hein, parce que mon corps était fatigué et j'avais des problèmes de dos. J'avais aussi perdu un peu cette niaque parce que bah, voilà, j'étais fatigué. Hein, j'ai pas trop fait trop de repos, pas trop de vacances pendant 2 ans et bah, j'ai payé en 2008. Hein, et j'ai payé cher. Donc opération du dos derrière, double hernie discale, donc tout ce qui va avec. Donc c'est pour ça que des fois, faut savoir lever le pied. Et moi, pendant ces 2 ans, entre 2005 et 2007, j'ai pas trop levé le pied, pas trop de vacances, pas trop de repos. Et ben, je l'ai payé en 2008, quoi. Donc, c'est pas un regret parce que si j'avais fait des choses comme il faut pendant 2 ans, 3 ans, peut-être que j'aurais été bon en 2008, mais peut-être que j'aurais pas été médaillé en 2007. Donc, voilà, faut savoir ménager la chèvre et le chou des fois. Donc, c'est un peu compliqué.
Est-ce que tu aurais un message à transmettre aux enfants qui sont à la place du petit Anthony, qui, quand il avait 10 ans et qui commence aujourd'hui le judo ou n'importe quel autre sport, est-ce que tu aurais un message à leur transmettre, des conseils un petit peu de grand frère?
Oui, bah le conseil, comme tu dis, de grand frère, les salles de sport sont ouvertes jusqu'à maintenant 19h, 20h. Mais pas l'école. L'école, c'est certains horaires le matin, certains horaires l'après-midi. Donc si vous loupez l'école pour aller faire du sport et après vous dire, ben, après le sport, je vais à l'école, non, l'école sera fermée. Donc commencez par aller à l'école et après l'école, hop, on file à la salle de sport. On remplit la tête et après, hop, on va se défouler à la salle de sport, que ce soit sur un terrain de foot, sur un tapis de judo, une salle de karaté, sur une piste d'athlétisme, peu importe. Mais on passe par l'école et après, on va au sport. Ça, c'est le chemin que je donne à mes enfants. J'en ai trois. Donc, on va à l'école et après, on fait du sport. Et pas l'inverse.
Dans quelques années maintenant, dans 6 ans, il y a une petite échéance qui va se passer. Je pense que tu vois de quel événement je fais référence. Est-ce que tu auras un rôle à jouer auprès des jeunes? On sait que tu nous as dit tout à l'heure que tu entraînais un petit peu. Est-ce que tu as peut-être envie de jouer un certain rôle auprès des jeunes pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024?
Ben moi, au sein de mon club, déjà, pour les Jeux de 2020, donc ils seront à Tokyo, j'ai deux potentiels olympiques. Donc, j'ai Hélène Rossovo et Audrey Tchouméo qui sont bien placés pour faire les Jeux Olympiques en 2020. J'espère que j'en aurai peut-être une en plus, peut-être une Maëlys Sinthiou en 63 kilos, je sais pas, on verra. Mais en 2024, je vais reconstruire une équipe d'ici un an voilà, pour avoir des jeunes. Donc j'espère que j'aurai un rôle à jouer en 2024. Là, c'est sûr, j'en ai un en 2020 parce que j'ai deux forts potentiels.
Tu mets où qui est déjà médaillé d'ailleurs?
Qui est double médaillé olympique, oui. Hélène, qui ne l'est pas encore, elle est médaillée mondiale, mais pas encore olympique.
Ça va venir.
Elle a été barrée là, par une fille qu'on connaît tous très bien à Orléans, c'est Autumn Pavia. Donc voilà, maintenant, après, en 2024, voilà, la route est encore longue. Donc j'espère que j'aurai, comme tu le dis, un rôle à jouer, parce que ça veut dire que j'aurai des filles ou des garçons avec un potentiel olympique, donc ce sera intéressant. Maintenant, moi, je suis entraîneur de club, donc je ne suis pas entraîneur national, donc je fais mon travail au sein du club, au sein de l'US Orléans Judo, mais pas au sein de la fédération. Après, donc, quand les athlètes sont sélectionnés ou ont un potentiel d'être sélectionnables, là, c'est plus moi qui travaille, là, c'est la fédération, donc je passe le relais à... Alors, chez les filles, c'est Larbi Ben Boudaoud. Chez les garçons, c'est Franck Chambilly. Donc, c'est ces gens-là qui sont responsables après de sélectionner, d'entraîner, de préparer les athlètes. Donc, moi, je passe le relais après à la fédération. Donc, mon rôle est avant, mais après, dès que les Jeux Olympiques arrivent, les Championnats d'Europe ou les Championnats du Monde, j'ai plus de temps de travail, quoi.
Et donc pour ces enfants donc, qui ont aujourd'hui 10, 11, 12 ans, ben dans 6 ans, ils seront aptes à participer aux Jeux Olympiques si jamais ils réussissent à atteindre ce niveau. Est-ce que tu as déjà des petits jeunes qui commencent à avoir une certaine ambition?
Oui, là, au sein du club, on a un groupe cadet junior qui est intéressant. Donc, autant chez les garçons que chez les filles. J'espère que, voilà, après, entre aujourd'hui les cadets juniors, le plus dur, c'est pas de les entraîner, c'est d'essayer de les garder au club parce qu'ils arrivent à un âge où, à 18 ans, 19 ans, on commence à sortir, on a le permis de conduire, on a les copains, les copines, avec tous les réseaux sociaux maintenant. Donc, ça devient compliqué de garder des ados au sein du club. Maintenant, on va faire en sorte d'en garder un maximum. Mais
c'est ça aussi qui est le plus dur, c'est de garder les pieds sur terre quand on est un gamin et que on a des ambitions un petit peu sportives. On sait que les sportifs de haut niveau, c'est avant tout une vie de sacrifice.
Il faut, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on n'est pas, moi, on l'a été, quoi, moi, je l'ai été une période de ma vie athlète. Maintenant, on n'est pas à leur place, on n'est pas dans leur tête pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, c'est vrai que c'est du sacrifice. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'engage dans cette voie-là, on sait que, alors nous, on est un sport à catégorie de poids. Donc, entre la perte de poids, les entraînements au quotidien, donc tout ça, ça devient des fois vite barbant pour certains jeunes. Mais après tous ces sacrifices, il y a toujours une récompense. Il y a la récompense de la médaille, la récompense de la victoire, il y a la récompense peut-être des Jeux Olympiques. Et même dans cette défaite, il y a une récompense d'avoir été au bout de son rêve. Donc d'avoir essayé, d'avoir participé à ne serait-ce qu'à un championnat de France, un championnat d'Europe, un championnat du monde. Alors encore mieux les Jeux. Mais cette récompense, voilà, c'est... On va au bout et en bout de ligne, j'ai fait tout ça, mais bon, j'ai perdu, mais je me suis quand même donné les moyens. Parce qu'aujourd'hui, nous on le retrouve beaucoup dans le judo, c'est des sacrifices et c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, hein, des sacrifices, des heures de boulot, aller à droite, à gauche. Alors moi, je travaille en région parisienne entre les bouchons, tout ça, tout, donc c'est un peu compliqué. Mais on les éduque aussi, pas que pour être champion. Hein. On les éduque aussi pour leur jour après. Parce que leur période de vie d'être champion, comme tu l'as dit tout à l'heure, si ça dure 10 ans, c'est bien. Mais derrière, la vie elle commence vraiment. Donc à partir de 28, 30 ans, là, ils rentrent dans la vie active et là, c'est autre chose. Mais quand ils auront connu... des sacrifices à faire du haut niveau, à faire attention à leur poids, attention à leur hygiène de vie, et tout, ils seront armés pour affronter le monde extérieur. Mais ce sera plus facile pour eux, on va dire. Ce sera plus facile. Les gens qui ont l'habitude de faire des sacrifices et d'aller au travail, que ce soit dur, et de se lever le matin, que c'est dur parce qu'il faut aller courir, parce que j'ai encore 3 kilos à perdre pour le lendemain et tout. Et quand ils vont aller rentrer dans les actifs, ces gens-là, ils sont armés, ils sont costauds. Ouais.
Dernière question. Tu parlais tout à l'heure de la durée donc, d'une vie de sportif. Ce qui est important aussi, et on ne cesse d'en parler, c'est l'après. Comment tu as géré ça, toi? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui va t'aider dans ton management aujourd'hui, le fait d'avoir eu une expérience de sportif de très haut niveau, de pouvoir encadrer certains judokas aussi et de leur dire que eh ben il faut pas penser qu'au présent, il faut penser aussi à l'après. On sait qu'il y a plein de sportifs qui n'arrivent pas à gérer ça et qui tombent de très haut juste après la fin de leur carrière.
Oui, bah. Nous, au sein du club et même au sein de la fédération, les athlètes sont suivis quand même. Donc, ils gagnent pas mal leur vie. Ils ont certaines sommes d'argent en fonction de leurs résultats. Avec mes filles, je leur dis, c'est pas parce que vous gagnez X euros par mois que voilà, faut tout flamber. Donc, moi, je les accompagne déjà. Leur premier objectif, c'est d'avoir un appartement sur Paris où ils ne payent pas le loyer. Donc, ça veut dire investir. Et donc, ils investissent déjà directement dans des appartements. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Après, quand je leur dis d'aller à l'école et d'avoir un maximum de bagages, même s'il y en a qui sont experts en comptabilité, parce que j'en ai, et d'autres, et moi je ne ferai pas trop de sport ou quoi que ce soit. Après, je vais rester dans la compta ou faire autre chose. Moi, je leur donne, t'as fini tes études, ouais. Bah, tiens, cette année, fais un petit diplôme, la métier de la forme, un truc comme ça. Ça peut toujours servir. Donc, ils continuent à l'école, même s'ils prennent un petit BPJEPS à côté, un petit CQP, un petit truc en plus. Voilà, ça leur fait un bagage en plus, on ne sait jamais. Mais je leur dis, hein, demain, aujourd'hui, vous gagnez 7, 8, 10 000 euros par mois, c'est très bien. Mais quand ça s'arrête, c'est plus ça les sommes. Hein. Donc, on est plus près des 2000 euros que des 7000 après. Donc là, je dis, je leur montre que bah, c'est très bien l'instant présent. Il faut le vivre, mais il faut pas tout claquer quoi. Donc investir. Hélène Rousseau aujourd'hui, qui est une de mes protégées depuis maintenant 7 ans, 8 ans. Elle a déjà son appartement qui est quasiment payé à Paris. Elle a investi dans un deuxième appartement en Bourgogne. Voilà, donc c'est une fille qui a les pieds sur terre. C'est une fille qui va à l'école, alors que c'est une qui a un des plus gros palmarès du club parce que voilà, elle gagne aussi beaucoup beaucoup d'argent. Maintenant, je leur dis d'investir et de pas claquer l'argent comme ça parce que à un moment donné, ça s'arrête quoi. Et on a beau être médaillé dans tous les championnats, le club, quand on est en fin de carrière, bah le club ou la fédération ne donne plus les salaires, quoi. Ça s'arrête hein, tout simplement.
Donc il faut faire attention et l'école d'abord. Alors justement, est-ce que tu as peut-être un petit mot à adresser aux écoliers de Jean Mirmoz qui t'écoutent?
Bah écoutez, les gars, les filles, amusez-vous bien. L'école, c'est, comme je dis à mes enfants, hein, c'est vite fait quand même. C'est, vous êtes le matin, vous rentrez le midi manger, l'après-midi, et ça dure pas si longtemps que ça. Tout le monde se dit, ouais, ça dure longtemps, c'est long, c'est dur. Bah, oui, c'est long, c'est dur. Mais à un moment donné, quand ça s'arrête, après, on se retrouve avec un diplôme, avec un vrai avenir, avec des diplômes dans les poches. C'est plus facile pour aller trouver du travail, même s'il y en a aujourd'hui qui disent que ouais, lui, il est bac plus 4, bac plus 5, mais moi, je suis rien, mais j'ai un boulot. Oui, mais bon, on va plus tendre les mains à quelqu'un qui a un bac plus 4, bac plus 5 que quelqu'un qui a rien dans les poches. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner, écoutez vos profs, allez à l'école, écoutez vos parents, et le sport, hein, je vous dis, hein, vous aurez le temps d'en faire après l'école.
Le message est passé. Merci beaucoup, Tony Rodriguez, d'être venu nous parler donc, de vous, de votre parcours et du sport, du judo avant tout. Et puis, eh bien, on vous souhaite bonne continuation et puis on essaye voir, on espère voir vos poulains en 2024.
Premier rendez-vous, là, au mois d'avril, on aura Hélène Rousseau, Audrey Tchouméo, qui seront sélectionnées au championnat d'Europe en Israël fin avril. Donc ça, c'est notre première échéance, on va dire, internationale. Et après, au mois de juin, le week-end du 9 et 10 juin, pour ceux qui veulent venir nous encourager, on est en championnat de France à Bourges par équipe. Donc les garçons le samedi et les filles le dimanche. On a besoin de soutien, donc si vous voulez venir nous encourager, on vous attend.
Merci beaucoup, Tony, et puis vive le judo.
Oui.